Salut à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 24 du podcast de Rendez-vous Création. On va parler aujourd'hui d'écriture de chansons et je me retrouve à nouveau avec Tania de Montaigne.
Bonjour.
Salut Tania.
Ça va, on est au même endroit, on dirait qu'on n'a pas bougé.
Ouais, depuis l'épisode numéro 21, on avait parlé d'écriture d'un roman, notamment de ton dernier roman Tokyo c'est loin.
Ouais.
Voilà. Alors je t'ai vu en concert à l'Européen le 31 janvier. T'as présenté pas mal de chansons, toutes plus jolies les unes que les autres.
Merci.
Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en fond musical justement pour cette interview?
On pourrait peut-être mettre des gens que j'aime bien.
Ah ouais?
Ça pourrait être pas mal.
Si on avait l'autorisation, ouais.
Oui, on pourrait mettre Billie Holiday.
Ah ouais, d'accord.
Parce qu'elle est dans le domaine public, donc comme ça, elle ne nous gênera pas au niveau des droits.
Ok, impeccable.
Et puis non, mais c'est surtout parce que c'est magnifique.
Et l'écriture de chansons, ça commence par l'écriture.
Ouais.
Le stylo.
Non, alors en fait, non, il y a deux périodes en fait. Il y a une période où je savais pas en fait écrire je sais toujours pas écrire la musique, mais je savais pas en faire. Mmh. Je savais pas jouer d'un instrument, et donc à ce moment-là, j'étais plus sur les textes. Et après, je pensais à une mélodie qui partait du texte. Et puis le jour où j'ai commencé à me mettre au piano, du coup, c'est devenu évident que ce serait l'inverse plutôt, et que je partirais de la musique et j'irais vers les mots en fait. Donc les mots sont devenus, ils suivent quoi.
Donc tu prends ton piano.
Ouais, je le prends comme ça, tac. je le déplace, je le porte sur mon dos et hop, et c'est un peu lourd, donc ça me prend un peu de temps, mais...
C'est pour ça que les paroles sont un peu bizarres. Hein.
Ça modifie, hein, parce que déjà je dois retourner me faire masser à peu près, dès que je veux écrire une chanson, c'est... Donc je me mets au piano. En fait, il arrive que parfois j'ai une idée d'histoire, déjà, ou qu'elles viennent en fait avec les accords que j'utilise. Et puis après, mais maintenant c'est plus une histoire d'ailleurs, parce qu'avant, quand j'avais pas cet accès à la composition, c'était plus, même si je voulais raconter quelque chose, on voit ça d'ailleurs dans les... On peut repérer quand on écoute, on sait si les gens qu'on écoute, ils ont commencé par le texte ou la musique, et on sait où ils en sont en fait par rapport au texte. Mmh. Parce qu'au tout début, quand on écrit des chansons, que ce soit conscient ou inconscient, le truc qui nous intéresse c'est la rime, on ne peut pas se décrocher de cette idée-là. Et donc du coup, on a l'impression que toute la phrase elle est construite pour amener cette rime. On est vraiment là-dessus.
Alors comme si on posait le mot final
avant la
phrase.
C'est vraiment le truc qui irrite. On a presque l'impression de voir le mouvement de la phrase et de voir que vraiment le pic du truc c'est la rime quoi. Et puis après quand on s'échappe de ça et qu'on est vraiment sur l'histoire en fait, c'est assez lié à l'écriture des livres maintenant, et donc du coup c'est la rime elle vient mais presque toute seule quoi. C'est après dans le récit ça va s'organiser comme ça et on va pouvoir avoir
C'est ce que tu me disais la dernière fois qu'on s'est vu, c'est que finalement ta façon d'écrire les chansons,
tu veux dire que je rabâche?
Tu me disais que ta façon d'écrire les chansons, finalement, était fortement liée à la façon d'écrire une histoire, un roman.
Ouais.
Et que donc, le texte arrivait, on va dire, plus facilement, en pensant d'abord à une histoire plutôt qu'à une idée plus générale.
Oui, voilà, je suis plus dans le côté, parce que sur le début aussi, quand on écrit des chansons, on a tendance à faire du très mauvais Gainsbourg, on part dans des trucs avec des mots qui s'imbriquent et tout ça, des trucs très compliqués, quoi. Et qui sont d'ailleurs pas évidents à chanter du coup, hein. Ça fait de l'addiction, en même temps ça fait des cours, hein, pourquoi pas. Mais ça, je trouve, c'est un truc qu'on abandonne si on est dans l'idée d'un synopsis qu'on a en tête. Du coup, le côté de se compliquer la vie avec des rimes insensées, ça passe un peu à l'as, quoi.
Et la structure, couplet, refrain, est-ce que tu te fixes des limites, des contraintes ?
Non, disons que moi j'écris vraiment des chansons, donc pour moi c'est pas une contrainte d'avoir cette structure-là, quoi, d'avoir quelque chose qui va se répéter, parce que moi c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est la chanson. Il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment fascinant en fait, dans l'idée qu'on puisse avoir des mots comme ça qui sont hypnotiques. Il y a des chansons, on comprend rien du tout de ce qui se dit dans le couplet, on sait pas du tout ce que les gens peuvent raconter, mais il y a un mot qui va retenir l'attention et qui va cheminer, puis on s'en souvient même 25 ans plus tard, on sait. Moi il y a des chansons que j'ai entendues toute petite, je sais pas du tout, mais alors vraiment il y a des gens, je comprends absolument pas ce qu'il disait, mais je sais pas, il est resté quelque chose de ça, et je trouve que ça c'est dingue d'arriver à faire ça m'intéresse quoi.
Plus que imprégner chez les auditeurs une mélodie, les faire siffler dans la rue.
C'est
c'est les deux en fait qui est intéressant. C'est d'avoir quelque chose qui, justement, c'est le lien en fait qui est, c'est ça le vrai challenge, d'arriver à faire une mélodie qui marche toute seule presque, donc qu'on puisse siffler effectivement même si on n'a rien compris à ce qui se raconte, et puis d'essayer de faire que les mots ils soient dans cette dynamique là, c'est-à-dire suffisamment rythmique pour que ça aille avec, même si on retient une phrase ou une autre, je sais pas. Ça c'est intéressant quand ça colle les deux, c'est pas mal quoi.
Tu commences par la musique, souvent au piano. Est-ce que dès ce moment-là, tu as une idée de l'instrumentation qu'il va y avoir derrière, de l'ambiance ?
Là, je commence en fait. Parce qu'au début, pas du tout, dans la mesure où déjà, je trouvais ça tellement dingue de jouer du piano que j'en étais pas du tout à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre, qu'est-ce qu'on pourrait changer, tout ça. Et puis maintenant que je connais un peu et que j'écoute d'autres choses et tout ça, et puis que je commence à me détacher aussi du côté c'est dingue, on peut faire des sons avec ses doigts. Bon, là, du coup, il y a des morceaux. Par exemple, Caresser, je l'ai vraiment écrit pour de la guitare. Et je l'ai vraiment pensé pour que ça soit une bossa. Parce que je l'ai écrit en pensant à Salvador. Et voilà, chercher une chanson de quelqu'un qui pourrait avoir 80 ans et qui pourrait dire, écoute, la vie, ouais, il y a plein de trucs, tu passes à côté, il y a plein de trucs qui... Mais bon, en attendant mieux, voilà, posons-nous et arrêtons de gigoter dans tous les sens, quoi. Donc voilà, après, il y a des univers qui s'imposent, c'est rigolo, ça.
Une fois que la chanson est écrite, tu dois avoir envie d'enregistrer.
Ouais, alors là intervient... Enfin, oui et non, en fait. Ah. Moi, je suis contente qu'elle existe. Après, c'est presque... Une fois que ça roule et tout, je la joue beaucoup. Donc, mes voisins s'en souviennent. Et puis... et puis après, voilà, je passe... J'ai envie de raconter une autre histoire. Moi, l'enregistrement, de toute façon, tout ce qui est technologie, ça me pèse énormément. Donc, c'est pas comme si... C'est pour moi beaucoup de contraintes, en fait. Donc c'est pas, je me dis pas, oui, il faut que ça soit posé quelque part. En fait, c'est presque comme si c'est fait. Et puis c'est pour ça aussi que ça m'intéresse d'écrire pour d'autres gens, c'est que, et même que mes morceaux soient chantés par d'autres gens, je trouve ça super. Que ça m'appartient plus, ça fait son chemin et que ça soit interprété par différemment. Puis c'est rigolo de voir comment les gens ils peuvent repenser une musique qu'on a faite et tout ça. Alors en même temps je parle dans l'absolu parce que ça m'est pas encore arrivé, parce que j'en discutais avec d'autres auteurs compositeurs qui eux ont interprètent aussi et qui eux ont eu leurs morceaux ou peuvent avoir leurs morceaux interprétés par d'autres gens, et des fois il y a un côté genre non c'est pas ça. Donc je sais pas si j'aurais ça, mais je suis pas sûre de ça. Je pense que j'aurais assez de facilité à laisser le bébé à d'autres gens et qui s'en occupent, quoi.
Mais il y a des cas où tu les chantes toi-même, comme c'était le cas le 31 janvier à l'Européen. Donc là, forcément, tu joues avec d'autres musiciens, enfin la plupart des chansons en tout cas. Ça veut dire qu'il y a des répétitions, ça veut dire qu'il faut que tu communiques ta musique à ces musiciens.
Ouais, en fait, ce que je fais, c'est qu'avant qu'on répète, je fais un petit CD de tous les morceaux que j'ai prévus pour les concerts qu'on a, en mettant à chaque fois quels instruments j'entends pour ça, qui va jouer, qui joue pas. Et puis, j'essaye d'affiner encore plus et de mettre presque, de donner à entendre un autre morceau qui pourrait être dans l'esprit de ce que je veux faire, pour donner tout de suite une couleur et leur dire, voilà, là j'ai envie que ça soit, je sais pas, qu'on ait un son Motown, là qu'on ait un son qui soit très rock, là qu'on ait des guitares qui grattent un peu, enfin voilà, d'essayer de leur donner tout de suite. Et j'aime bien faire ça en fait, de penser à un morceau et puis de faire comme si je faisais une robe, quoi, de donner comme un bout de tissu, de dire voilà c'est ça que j'aimerais, ou de donner un tableau pour les je sais, les cinéastes peuvent faire ça quand ils veulent une lumière particulière, ils donnent des références comme ça, et en fait je trouve ça pas mal de faire ça, parce que tout de suite de faire ça avec des gens qui sont très talentueux, donc qui vont choper l'esprit mais qui vont pas me faire exactement la même chose, c'est pas mal du tout, surtout que en plus là c'est des musiciens, ceux avec qui je travaille. Ce qui est vachement intéressant, c'est que a priori ils ont plutôt œuvré dans des choses assez jazz, mais qu'en même temps ils ont une palette suffisamment grande pour qu'on puisse se balader dans d'autres choses tout en gardant cet état d'esprit. Ça c'est pas mal.
Donc tu les laisses complètement libres?
En fait je les laisse libres dans un cadre que je donne au début, quoi. C'est ça l'idée, mais en même temps ça c'était aussi une vraie interrogation, et ça j'ai appris ça pas mal en regardant travailler Benjamin. Benjamin Biolay, parce que donc je suis allée souvent le voir en studio, qui travaille sur des trucs pour moi ou pour d'autres gens ou pour lui. Il a une équipe de musiciens qui sont ses musiciens d'ailleurs souvent avec lesquels il va tourner, et qui sont ses musiciens depuis le début en fait, et qui sont des gens très talentueux. Alors là pour le coup on est sur de la grosse pointure, mais il a la capacité de faire ça, c'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il veut, et en même temps tout le monde se sent très libre de proposer des choses, d'essayer des choses. Ça veut pas dire qu'il retiendra tout ce qu'on dit, mais quand on avait travaillé sur mon album c'était assez flagrant on était tous ensemble. Déjà, on avait pris l'option de faire un truc à l'ancienne, donc tous les musiciens soient tous ensemble et de chercher ensemble. Et donc, du coup, on voyait bien à quel point lui, il est là, il intervient pas du tout. Hein. On est sur le morceau, on essaie des trucs, voilà. Puis à un moment, il dit, c'est ça. Et hop, et là, on commence à enregistrer le truc et il a donné une trame. Et en même temps, on a pas de frustration. Voilà. Chacun est vraiment... Et du coup, chacun propose des choses vraiment dans un spectre très large, quoi. Mmh. Donc ça, c'est vachement réjouissant pour tout le monde et ça fait des enregistrements... On avait bien rigolé. Hein. Et quand on se voit avec tous les gens avec qui on avait enregistré, qui sont pas les musiciens que j'ai sur scène, qui sont d'autres musiciens, mais quand on se revoit et c'est des gens qui tournent... Enfin, il y a des gens comme, par exemple, Denis Benaroche, qui est un batteur percussionniste qui est insensé, extrêmement talentueux. Il y a Laurent Verneret, qui est bassiste contre bassiste. Il y avait Nicolas Fisman, qui est un bassiste et qui est aussi guitariste. Et quand on se revoit, on est genre « Ouais, c'était trop chouette !» Donc ça, c'est vachement bien, quoi. Ouais, c'était... Vraiment, c'était hyper agréable de faire ça, quoi. Parce que vraiment, là, on fait de la musique. On n'est pas dans une efficacité qu'on pourrait présupposer parce que c'est un studio, parce qu'il y a le compteur qui tourne et tout ça. Pas du tout, quoi. Et donc, ça m'a appris ça, d'accepter que le talent des autres ne soit pas... qu'on ne doive pas s'en préserver, quoi.
C'est un moment de collaboration créative intéressant.
Ouais, de se dire... J'avais vu ça aussi... Il y a un DVD qui est génial du dernier album de Björk, de Medulla, et on voit comment elle organise son travail. Donc elle travaille vraiment, elle toute seule d'abord, à élaborer tous ses trucs, elle faisait tous les sons. Le principe de Medulla, en fait, c'est que c'est un album qui est essentiellement vocal. Donc elle, avant, elle a travaillé sur comment elle voulait organiser, c'est parce qu'elle fait des chansons Björk, c'est ça qui est génial avec elle, c'est qu'il y a une liberté totale. Elle essaye dans plein de domaines différents, mais en même temps, c'est des chansons, quoi. C'est une super mélodiste et tout. Et donc là, elle fait toute une préparation, donc où elle est seule avec son ingé son, en travaillant sur l'électronique, en fait, vraiment, donc sur des sons. Et puis après, elle a fait une sorte de casting dans le monde entier. Enfin, c'est même pas un casting, on peut pas dire ça, parce que c'est pas l'idée de... Elle a écouté plein de choses très différentes qui pouvaient se faire avec la voix, et puis après, elle a dit, bon, bah, moi, ça m'intéresse. Et on la voit, en fait, aller d'un pays à l'autre pour enregistrer ces voix-là. Et voilà, on la voit se balader comme ça, et à aucun moment, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle peut prendre toutes les choses que tous les gens lui proposent, ça ne nuit pas à son travail, quoi. Tout ça, ça l'enrichit. Mais la capacité de ça, de se dire qu'on peut ouvrir suffisamment la porte et qu'il n'y a pas de souci, et ben ça, je trouve que c'est vachement intéressant comme travail. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Il n'y a pas d'autre...
Pour en revenir au CD que tu donnes aux musiciens...
Oui, parce qu'on est parti à Björk.
Peut-être avec, tu donnes des grilles d'accords pour les chansons, les paroles...
Non, alors voilà. Non, ça, c'est ma chance. C'est comme ces musiciens sont géniaux. Mmh. Ils écoutent et puis c'est aussi que... Enfin bon, il y a le fait qu'ils sont géniaux, donc ils peuvent tout récupérer à l'oreille. Puis au pire, de toute façon, on se voit et moi, je rejoue les accords pour qu'ils puissent les noter. Mais il y a aussi que pour l'instant, je ne fais pas non plus des compositions si dingues qu'on ne puisse pas décrypter ce que je fais, quoi. Okay. Donc du coup non, parce que moi je sais pas écrire la musique. Là j'ai appris, j'ai pris deux cours entre Noël et Jour de l'An. C'était génial, de solfège et tout. Donc maintenant je commence à savoir le nom de ce que je fais. Alors, là, c'est, ça ouvre des perspectives dingues. Mais
les accords au piano que tu fais, comment tu les imagines?
Alors comment je les imagine? Ah bah je les entends juste. Je dis tiens, ça c'est joli, ça peut m'inspirer un truc. Et après je travaille à essayer d'imaginer ce que ça m'inspire et tout ça, mais je sais pas du tout ni lire la musique, ni l'écrire. Donc pour l'instant, comme moi, je voulais quand même qu'il y ait des choses écrites, parce que sinon ça présuppose que je me souvienne de tous les morceaux que je fais, ce qui est compliqué. En fait, je note, mais en fait, je note la note, c'est-à-dire j'écris do, ré, dièse, machin, donc j'ai aucun moyen de noter les temps. Ça, en revanche, il faut que je m'en souvienne, et j'ai aucun moyen de... Il peut pas y avoir de subtilité, quoi. Puis surtout, ça prend énormément de place, c'est ce que j'écris tous les trucs, de la main droite, la main gauche.
Ah oui, carrément.
Ouais. Donc j'ai des cahiers qui fascinent énormément toute personne musicienne, parce que c'est pas banal quand même.
Tu peux revenir sur le CD aussi quand tu...
Oui, alors au pire, après, je peux, je réécoute et je retrouve à l'oreille ce que c'était. Mais voilà, j'ai mon petit cahier avec tout noté.
Tu l'enregistres comment, le CD ?
Donc, il y a une partie, soit c'est des morceaux que, en fait, j'avais fait déjà avec Benjamin, mais en même temps, alors ça...
Donc là, c'est un enregistrement studio.
Donc ça, c'est des enregistrements studio. Ceci dit, ça induit un truc qui est assez marrant, c'est que du coup, il y a les arrangements de Benjamin. Donc du coup, après, il faut ou s'en extraire ou garder des choses, en enlever d'autres et tout ça. Et puis surtout, en fait, je me rends compte, parce que moi, en fait, à l'époque, j'étais déjà tellement concentrée sur l'idée qu'il faut que je chante, qu'il y a des super musiciens qui viennent, qu'on n'a pas beaucoup de temps et tout ça, que je suis pas du tout intervenue sur la production, en fait. C'est vraiment Benjamin qui drivait ça. Et donc, du coup, quand on réécoute les morceaux, il y a des fois, les musiciens, ils ont pris des libertés avec mes compositions. Et moi, comme à cette époque-là, j'étais pas du tout musicienne, j'étais bien plus chanteuse. Du coup, après, quand on les rejoue, les musiciens sur scène, ils font des trucs. Enfin, quand on répète, et je dis, mais non, c'est pas du tout ça. Hein. Et là, on réécoute les maquettes et ils me disent, mais si, là, il fait ça et tout. Et je dis, non, c'est pas ça que je veux, non, non. Donc, ça, c'est marrant aussi. Donc, il y a soit ça, soit des morceaux live parce qu'on avait enregistré, on essaie d'enregistrer, en tout cas, on l'avait fait au Franco. Et puis, on avait enregistré aussi au Baron quand j'avais fait un petit concert. Donc, il y a des morceaux que j'ai de ces trucs-là, du live. Et puis, sinon, alors après, je me bagarre avec GarageBand et c'est horrible à voir. Hein, parce que, bon, pour un morceau de 2 minutes 30, je peux y passer 3 jours. Donc, okay. C'est d'un pathétique extrême. Mais bon, au moins, mais le jour où j'ai eu GarageBand, quand même, ça, c'était pas banal. Parce que je fais rien du tout de ce que font les gens qui ont GarageBand, c'est-à-dire utiliser toutes ces possibilités dingues. Bon, ça, je fais pas parce que ça me gonfle. Mais, en revanche, au moins, je peux poser mes morceaux juste piano voix et comme ça on les a quoi. Donc ça c'est fameux.
Et oui. Et alors il y a des morceaux qui sont joués en concert et il y a des morceaux qui ont été enregistrés en studio. Donc la finalité au départ c'est les concerts, le studio éventuellement pour publier les chansons.
En fait le truc c'est que au tout départ, enfin après qu'il y ait eu les maquettes, la finalité c'était vraiment de jouer sur scène et c'était et je savais pas pourquoi mais maintenant je sais parce que déjà on s'approprie les chansons donc on ça fait aussi que moi je peux je suis plus détendue, je les chante différemment et tout ça et puis c'est surtout que c'est le seul moyen de travail que j'ai quoi parce que c'est vrai que maintenant un studio ça coûte à la fois ça coûte rien plein de gens en ont mais quand ça passe par une structure industrielle donc une maison de disques. Bon bah alors tout de suite c'est des budgets de dingue donc l'idée c'est de rester à peu près le moins longtemps possible dans le studio et donc on n'a pas du tout de moyens de travailler alors que avant il y avait une pré-production, avant la production on était en studio, on cherchait et puis après on enregistrait quoi, donc on pouvait avoir un studio pendant 3 semaines, un mois, voilà. Bon maintenant c'est 2 semaines d'enregistrement donc faut être vraiment bien calé. Et du coup, je me suis toujours dit qu'il fallait trouver un biais pour qu'on puisse bidouiller les chansons, voir ce qui va le mieux, ce qui va le moins bien, essayer des choses et tout. Donc la scène, c'est génial pour ça.
Et tes morceaux, on les retrouve aussi sur ta page MySpace.
Alors, il y en a 2 sur MySpace. Et puis, normalement, à partir de début mars, il y a un titre qui va être sur toutes les plateformes, qui est Caressé. Et puis voilà quoi. Et puis après, je sais pas trop. En fait, là, on est dans une sorte de temps suspendu parce que au moment où je fais de la musique, c'est le moment aussi où il faut la penser différemment. Donc, je sais pas trop comment ça va se terminer. Est-ce que finalement, je vais autoproduire complètement et me débrouiller, ou est-ce que finalement, ça va passer par une structure quand même ou je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser sur cette affaire en fait.
Alors, ta page MySpace, c'est myspace.com/Tania de Montagne.
Ouais.
Et donc on retrouve 2 chansons.
On retrouve 2 chansons. Il y a l'été, ne compte pas sur moi, qui sont 2 titres produits par Benjamin. Puis là, je pense qu'on va faire bouger ce qu'il y a. C'est... Ça me prend un temps fou aussi ce MySpace parce que j'y connais rien, donc ça me prend.
C'est toi qui t'en occupes directement ?
Et bah ouais, en fait.
Ouais. Et principalement, ça t'apporte quoi alors cette page
hein ? Oh là là, alors ça m'apporte plein de trucs. Hein. Franchement, pour les gens qui font de la musique, il faut absolument avoir sa page MySpace parce que déjà, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré mon pianiste en me baladant. Parce qu'en fait, comme ça fonctionne vraiment, c'est rhizomique quoi. Donc dès que vous allez chez quelqu'un, il a des amis, vous cliquez sur ses amis, ils en ont d'autres et tout ça. Bon, alors la formule ami est très américaine hein, parce que c'est quand même des amis, on les connaît pas, on les a jamais vus. Puis c'est pas comme si on pouvait leur demander plein de trucs.
Les relations.
C'est du relationnel, on va dire, tout à fait. Mais du coup, ouais, moi, je suis tombée sur une page et c'était la page d'Alexandre Destré. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sublime ce qu'il faisait, ses compositions à lui de pianiste et puis son travail pour d'autres gens. Et donc, du coup, je lui ai laissé un petit message et hop, tac, connexion formidable. Et du coup, on s'est rencontrés et puis on a commencé à travailler ensemble. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a des gens qui m'ont contacté. Des gens des radios ou des gens des tourneurs et tout ça, ça passe par là en fait, c'est vraiment une boîte aux lettres donc c'est super d'avoir ça quoi.
Ça doit aussi te permettre d'avoir des retours du public, non ?
Alors il y a ça aussi, mais alors il y a un truc qui est particulier, c'est que j'ai fait l'expérience une fois, j'y suis pas allée pendant quelques jours et en fait quand je suis revenue, je me suis dit il va y avoir de tout en fait et il n'y a jamais de truc méchant. Donc je crois qu'il y a une sorte de... Oui, mais en même temps, je pense qu'il doit y avoir... C'est le principe, vraiment, on est tous amis. Ouais. Donc on est sûr, c'est super. C'est génial,
ambiance.
On est vraiment... Mais c'est super ce que tu fais, toi aussi c'est bien. Toi, non, c'est toi, tout est super. Donc je sais pas... Ça m'a fait rire, je me suis dit, bah tiens, c'est un espace préservé, on appelle ça. Genre.
Et sur ta page, il n'y a pas trop d'auto-promo, des choses comme ça?
Ah mais si, alors, mais si. Ça, sur autant les gens que je connais, parce qu'il y a des gens, je ne les connais même pas, on n'a jamais discuté, et puis en fait, sur ta page, tu vois, ils prennent tout l'espace avec une méga pub qui clignote et tout, et je trouve ça mal poli, quoi.
Mais ouais.
Surtout que des fois, elles sont moches. Quand c'est joli, je laisse un peu, voilà, mais sinon, je les enlève, je trouve ça pas bien. Et j'en ai discuté avec une autre chanteuse, et elle me disait ça aussi.
On va terminer par le conseil ultime pour les débutants qui voudraient écrire des chansons.
Ultime !
Ouais.
Bah, c'est de le faire. Le vrai conseil, c'est de le faire, en fait. Parce que souvent, on se sent sûr. En fait, il y a deux conseils. Le premier, c'est que... Mais ça marche pour tous les arts. Et je crois que ça marche même pour la vie. C'est qu'il faut admettre qu'on n'est que ce qu'on est. Donc,
c'est vraiment ultime, alors, comme conseil.
C'est ultime. Ouais. Voilà. Il faut admettre ce qu'on est. Mm. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Et qu'il y a des gens qui... Évidemment, il y a toujours des gens qui font mieux ou qu'on admire ou qu'on machin. Donc, il faut essayer de s'échapper de ça parce que tant qu'on est dans l'emprise de ça, on est dans le délire de « oui, mais non, je peux rien faire écouter parce que là, je voudrais que ce soit parfait et tout. » Ça n'existe pas parfait. Donc, voilà. Une fois qu'on a admis ça, du coup, ça nous ouvre un espace de détente parce qu'on peut toujours se dire que, bon, justement, il y a Billie Holiday. Donc, si les gens veulent écouter la perfection, il y a Billie Holiday. Puis après, du coup, voilà, on est décontracté sur le reste du projet. Et puis, c'est important, même si... on a l'intention que d'être interprète, je trouve que c'est vachement important d'avoir un instrument sur lequel s'adosser, parce que ça donne une autonomie terrible et que du coup on peut vraiment aller chanter ces trucs tout de suite. Sinon on dépend de quelqu'un et là ça commence à devenir plus
piano,
pesant en fait.
Quoi.
Ouais, bon alors la guitare c'est vrai que ça a l'avantage de pouvoir se déplacer beaucoup mieux qu'un piano. Donc, mais bon, quoi qu'il arrive, avoir un instrument sur lequel on s'adosse c'est bien. Ouais, un xylo, après on peut partir dans des trucs... très léger, un harmonica, je ne sais pas.
Voilà.
C'est pas pour dire, chanter, ouais. c'est plus compliqué, mais pourquoi pas.
À la rigueur.
Ouais.
Merci Tania.
Merci.
Salut à tous.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. He's got it.